ici 14h à Paris, il est 13h en temps universel.
RFI Midi, Nemo en Peace.
Et dans cette dernière demi-heure, on continue de parler de la mort de Jimmy Carter. Le 39e président américain s'est éteint hier soir à l'âge de 100 ans. Son influence et sa politique en Amérique latine, on l'évoque avec notre invité dans un quart d'heure, André Caspi, historien des États-Unis. La revue de presse de Christophe Pagé sera également largement consacrée à cette actualité. Et puis ne manquez pas votre rendez-vous habituel, le journal des territoires français de l'océan Indien, présenté par Alex Léveillé. Nous sommes en Martinique et en Guadeloupe, Alex.
Et oui, pour parler de la possible libération de Rodrigue Petitot et des fêtes de fin d'année.
A tout à l'heure. Enfin, reportage en Colombie également après la sortie sur Netflix des 8 premiers épisodes de la série 100 ans de solitude, adaptation du célèbre roman de Gabriel Garcia Marquez qui lui a valu le prix Nobel de littérature en 1982. Mais tout de suite, le journal. Avec vous, Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
À la une, pluie d'hommages à travers le monde après le décès ce dimanche de l'ancien président américain Jimmy Carter.
Oui, mort à l'âge de 100 ans dans son domicile de l'État de Géorgie. Prix Nobel de la paix, il avait eu un rôle diplomatique primordial dans les années 70, notamment lors des accords de Camp David où il a permis la signature du premier traité de paix entre Israël et un pays arabe, l'Égypte. Bonjour Yelena Tomic.
Bonjour.
Journaliste au service international de RFI. Alors, les hommages aujourd'hui sont unanimes à travers le monde, Yelena.
Absolument, Guillaume. Rares sont les dirigeants politiques dont la disparition aura entraîné autant d'éloges sur tous les continents. Dans la pluie d'hommages à Jimmy Carter, une constante, le souvenir d'un homme qui aura laissé une empreinte indélébile pour son engagement pour la paix. Aux États-Unis, républicains comme démocrates saluent un homme de conviction profonde, selon George Bush, qui aura œuvré à améliorer la vie de tous les Américains. Pour Donald Trump et sans relâche pour un monde meilleur et plus juste, d'après Bill et Hillary Clinton. Jimmy Carter, qui a dirigé la première puissance mondiale durant la guerre froide, a aussi marqué les esprits à l'international. Cuba se souvient avec gratitude des efforts déployés par Carter pour assouplir l'embargo imposé par Washington. Hommage appuyé du Caire aussi, où l'on salue son rôle important pour la paix entre l'Égypte et Israël en tant qu'artisan des accords de Camp David de 1978. Dans une lettre à son homologue américain, le président chinois se dit profondément attristé par cette disparition, en profitant au passage pour souligner la relation entre les États-Unis et son pays, l'une des plus importantes au monde.
Merci beaucoup Yelena Tomic, journaliste au service international de RFI. Et notez qu'un jour de deuil national a été décrété, ce sera le 9 janvier prochain, annonce Joe Biden.
En Syrie, le gouvernement de transition noue des partenariats stratégiques avec l'Ukraine.
Oui, annonce du nouveau ministre syrien des affaires étrangères Assad Hassan al-Shibani, des partenariats couvrant les domaines politiques, économiques, sociaux et scientifiques. Cette déclaration intervient alors que Kiev cherche à renforcer ses liens avec les nouveaux dirigeants syriens après la chute de Bachar al-Assad, exilé en Russie. L'Ukraine a réaffirmé son soutien humanitaire en envoyant 500 tonnes de farine de blé. Ce rapprochement qui marque un tournant pour la Syrie, traditionnellement alliée à la Russie, dont l'influence est désormais affaiblie. Et puis notez que les États-Unis ont annoncé aujourd'hui, la mise en place d'un programme d'aide en matière de sécurité en Ukraine avec une enveloppe de 2,5 milliards de dollars.
Au Liban, à présent, les ministres français des armées, Sébastien Lecornu, et des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en visite dès ce lundi à Beyrouth.
Oui, 3 jours pour rencontrer des responsables du pays et passer le nouvel an avec les casques bleus français de la FINUL, déployés dans le sud du pays. Visite qui sera également l'occasion, côté libanais, de solliciter le soutien de la France afin de faire cesser les violations israéliennes de la trêve. À Beyrouth, la correspondance de Paul Khalifet.
Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot doivent s'entretenir avec le chef de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun, et le représentant du Liban au sein du comité de surveillance de l'application du cessez-le-feu avec Israël. Ces rencontres sont importantes car l'armée libanaise est appelée à jouer un rôle de premier plan dans l'accord de cessez-le-feu en se déployant au sud du fleuve Litani jusqu'à la frontière avec Israël. Ce déploiement n'est pas achevé plus d'un mois après la fin des combats. Il est entravé par les violations quotidiennes de la trêve par l'armée israélienne qui ne s'est pas encore totalement retirée du sud du Liban. Ces violations qui ont fait une quarantaine de morts et une cinquantaine de blessés depuis l'annonce du cessez-le-feu prennent plusieurs formes. Les Israéliens interdisent par exemple aux habitants des villages frontaliers de rentrer chez eux et procèdent à des incursions dans des villages qu'ils n'avaient encore jamais atteints pendant la guerre. Lors de ces opérations, l'armée israélienne affirme détruire des infrastructures militaires du Hezbollah. Mais les soldats dynamitent aussi des maisons et détruisent des routes. Les dirigeants politiques libanais demanderont aux ministres français en visite à Beyrouth de faire pression au sein du comité de surveillance du cessez-le-feu pour accélérer le retrait israélien et permettre le déploiement de l'armée libanaise. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Et Guillaume, une autre visite ministérielle française est en cours. Celle-ci est express, celle de François Bayrou à Mayotte.
Oui, le Premier ministre qui a annoncé un plan d'aide à l'archipel. Son nom, Mayotte debout. Son ambition, reconstruire Mayotte ravagée. Le tout en moins de 2 ans. Alors que le bilan officiel fait toujours état de 39 morts et plus de 5000 blessés, le chef du gouvernement, François Bayrou, juge que les rumeurs concernant les milliers de morts sont non fondées.
RFI, 22h passées de 6 minutes à Séoul, en Corée du Sud. Le travail d'identification des victimes du crash d'un avion survenu hier se poursuit.
Oui, 146 des 179 morts ont été identifiés grâce à leur ADN. Seules 2 personnes ont survécu, des membres d'équipage. Un deuil national de 7 jours a été décrété et dans le pays, c'est le choc qui domine après l'un des pires accidents aériens de la Corée du Sud, Camille Ruiz.
La période de deuil a commencé en Corée du Sud. Dans le quartier de Yongsan, au centre de la capitale, Suyeon est en train de rentrer chez elle. Lorsque l'étudiante aborde l'accident, elle en a les larmes aux yeux.
J'étais en train de travailler quand je suis tombée sur un article. Au début, j'ai été surprise. Je ne pensais pas que c'était si grave. Aujourd'hui, je suis tellement dévastée, tellement triste. J'espère que cela ne se reproduira plus jamais. Ça me brise le cœur.
Tia, 24 ans, ne l'a appris qu'à la mi-journée dimanche.
Hier, je suis allée à la cafétéria du dortoir pour déjeuner comme d'habitude et j'ai vu l'accident à la télé. Je pense que j'étais tellement choquée que j'ai continué à regarder les informations comme ça, la bouche ouverte. Je me suis sentie si mal en voyant l'avion en feu et les pompiers sortir les corps. Je suis si triste et bouleversée que des civils innocents aient perdu la vie comme ça.
Un mémorial a été installé à Muan, dans le sud-ouest du pays, pour que les familles des victimes puissent se recueillir. Une sculpture large de 30 mètres en forme de soleil sera inaugurée aux 12 coups de minuit près du pavillon Bo-Shin-gak, au cœur de Séoul. Et alors que la cérémonie annuelle du Nouvel An approche, les concerts de l'événement ont tous été annulés dans la capitale. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Et notez que la compagnie aérienne de Corée, Jeju Air, annonce des annulations en nombre. Plus de 68 000 personnes ne souhaitent plus décoller avec les avions de la compagnie.
Un point sport, Guillaume, avant de refermer ce journal avec le Vendée Globe et cet abandon du dernier vainqueur de la course.
Oui, Yannick Bestaven annonce son retrait alors qu'il venait de passer le Cap Horn en 11e position. Il va devoir mettre pied à terre pour réparer plusieurs avaries, notamment sur son système de barre. Il se dirige vers Ushuaïa où il sera rejoint par son équipe technique et cette escale le met évidemment hors course puisque le Vendée Globe est une course en solitaire et sans escale. Malgré la déception, Yannick Bestaven est heureux d'avoir franchi le Cap Horn. Écoutez-le.
Voilà! Il est là, le Cap Horn.
D'arriver au Cap Horn, même si je dois m'arrêter maintenant à Ushuaïa pour réparer, et ben ça a été une sacrée épreuve et j'aurais fait les 3 caps. Je dois abandonner le Vendée Globe maintenant pour voir la suite, comment ça se passe, si ce bateau est réparable pour continuer mon chemin. Même si je suis hors course, j'aimerais rallier les Sables d'Olonne en solitaire.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Voilà pour cette déception de Yannick Bestaven, quand même heureux d'avoir franchi le Cap Horn pendant ce temps-là. Loin devant, les 2 leaders, Johan Richomme et Charlie Dalin, sont toujours au coude à coude dans leur remontée de l'Atlantique.
C'était le journal de Guillaume Ouattara. Merci Guillaume, à tout à l'heure.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Nous y voilà, RFI Midi, ça continue jusqu'à 14h30 heure de Paris, au cœur de cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et des Amériques. La mort, toujours, de Jimmy Carter, 39e président des États-Unis à l'âge de 100 ans hier. On revient dans quelques instants sur l'héritage qu'il a laissé, notamment en Amérique latine et en Amérique centrale. Je vous propose d'abord d'écouter des témoignages de citoyens américains qui se souviennent de Jimmy Carter et de son mandat de 4 ans, de 1977 à 1981.
Il n'était pas seulement président et même s'il n'était pas le plus inoubliable des présidents, il a passé sa vie à servir les autres. À la base, c'était un fermier de cacahuètes, plus ou moins comme tout le monde ici. Des cacahuètes ou du coton, c'est un endroit simple. Je viens aussi d'un endroit simple, mais dans le Middle West, et je ne vois aucun autre président qui vient d'un tel milieu. Il était une exception parmi les présidents américains.
Il était toujours si aimable, lui et sa femme, avant qu'il ne tombe très malade. Il faisait du vélo dans la ville. Les services secrets les suivaient avec leurs grosses voitures noires, et eux, ils roulaient à vélo.
L'émotion ce matin aux États-Unis et un peu partout sur la planète, où de nombreux hommages en réaction à la mort de Jimmy Carter ont été lancés. Christophe Pagé nous a rejoint en studio. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et à la une de votre revue de presse, évidemment, encore une fois, la mort de Jimmy Carter.
Oui, le 39e président des États-Unis était né en Géorgie et The Atlanta Journal Constitution racontait hier que des habitants d'Atlanta étaient en train de se réunir au Manuel's Tavern, un bar près de la Fondation Carter, pour évoquer la mémoire de l'ancien président. Car c'est là, dans cet établissement où un portrait de John Kennedy est toujours suspendu derrière le bar, que Jimmy Carter avait lancé sa campagne de gouverneur en 1970. Pourtant, c'est sa carrière en dehors des États-Unis et après sa présidence que la presse américaine met en une aujourd'hui. Un président à l'unique mandat qui a brillé après la Maison-Blanche, titre le Washington Post. Une stature bien au-delà de la présidence, renchérit USA Today, jusqu'à l'accolade du Houston Chronicle, un humaniste mondial.
Et Christophe, il faut dire que sa présidence a été difficile et qu'il a été abondamment moqué.
Oui, quand Ronald Reagan lui a succédé, rappelle un éditorialiste du New York Times, le décorateur du couple républicain aurait ironisé sur la nécessité de se débarrasser de l'odeur du poisson-chat qui empestait la Maison-Blanche. Et même des démocrates comme Bill Clinton considéraient Carter comme une source d'embarras qui avait affaibli les libéraux et pavé la voie pour Reagan. En fait, tout cela est le signe de notre manque de discernement, affirme l'éditorialiste du quotidien new-yorkais, qui explique que Jimmy Carter a en fait été un bien meilleur président qu'on lui en sait généralement gré. C'est aussi l'avis de l'éditorialiste du Washington Post. Après la présidence Nixon et le scandale du Watergate, explique-t-il, Carter a aidé à restaurer la confiance dans la présidence grâce à des réformes éthiques aujourd'hui plus d'actualité que jamais. Par exemple, en isolant les fonctionnaires des pressions politiques, en développant tous les grands programmes d'éducation ou en mettant les États-Unis sur la voie d'une plus grande sécurité énergétique par rapport à l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et Jimmy Carter a aussi mis les droits de l'homme au centre de sa politique étrangère, à un point tel qu'aucun futur président n'a pu faire l'impasse dessus, insiste l'éditorialiste.
Pour autant, jusqu'à aujourd'hui, sa mort va peut-être changer les choses. Il est surtout considéré comme un formidable ex-président.
Il a peut-être été le meilleur ex-président de notre histoire, titre USA Today. Plutôt que de retirer de l'argent de son statut d'ex-président, il a inlassablement servi les causes de la paix, des droits humains, de l'éradication de la maladie et du logement à un prix abordable. Il a travaillé pour apaiser les tensions dans la péninsule coréenne, au Moyen-Orient, en Amérique latine et partout ailleurs. En 2002, après avoir été nommé à de nombreuses reprises pour le prix Nobel de la paix, rappelle le New York Times, il le remporte finalement, entre autres pour sa contribution vitale aux accords de Camp David, qui ont permis la paix entre Israël et l'Égypte.
Et certains articles, Christophe, font le lien avec l'évangélisme de Jimmy Carter.
Le Washington Times rappelle qu'après avoir quitté la Maison-Blanche et être revenu dans sa ville de Plains, en Géorgie, l'ancien président enseignait le catéchisme à l'église baptiste de Maranatha. Et le quotidien conservateur d'affirmer que la foi a façonné la présidence de Jimmy Carter et les décennies de vie publique qui ont suivi. Dans Politico, un professeur en religion à l'université de Dartmouth parle de la fin, avec sa mort, de l'évangélisme progressif, qui a, selon lui, défini l'agenda social et politique d'une grande partie du 19e siècle, les évangéliques cherchant à réformer la société américaine selon les normes de la piété, en accordant une attention particulière à l'admonition de Jésus de se préoccuper des plus petits d'entre eux. Une tradition, écrit le spécialiste, à laquelle l'élection de Ronald Reagan a porté un coup fatal, les évangéliques blancs se mêlant à l'extrême droite du Parti républicain, tout cela culminant avec un soutien massif à Donald Trump.
Vous parlez des anciens présidents, Christophe, quels étaient les liens de Jimmy Carter avec eux ?
Avec les républicains comme avec les démocrates, c'était tendu, raconte le New York Times, à cause du franc-parler de Jimmy Carter. Et quand le président Biden lui a rendu visite en avril 2021 dans sa maison de Plains, 40 ans après son départ de la Maison-Blanche, c'était la première fois qu'un de ses successeurs venait lui rendre visite chez lui. Ce qui n'a pas empêché Trump, Obama, Bush et Clinton, écrit USA Today, de saluer à l'annonce de sa mort un homme vraiment bien.
La revue de presse de Christophe Pagé. Christophe, on vous retrouve juste après notre invité. Il est 14h15 ici à Paris.
RFI.
À la mort de Jimmy Carter, on continue d'en parler, notamment de sa politique sur le continent américain et des traces qu'il a laissées en Amérique latine. Bonjour André Caspi.
Bonjour.
Vous êtes historien des États-Unis et professeur émérite à la Sorbonne. Le 39e président des États-Unis s'est donc éteint hier à l'âge de 100 ans. André Caspi, son décès résonne tout d'abord avec l'actualité puisque Donald Trump, qui reviendra à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, entend reprendre le contrôle du canal de Panama. Et c'est Jimmy Carter lui-même qui avait été à l'origine de la rétrocession du canal au Panama avec un traité en 1977 finalisé en 1999. André Caspi, que dit cette décision de Jimmy Carter de sa politique menée en direction de l'Amérique latine?
Vous savez, Jimmy Carter est mort à l'âge de 100 ans. Sa présidence s'est terminée en 1981, en janvier 1981. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été davantage un ex-président qu'un véritable grand président. Alors, il a réussi des choses pendant les 4 années de sa présidence. Par exemple, les accords de Camp David entre Israël et l'Égypte, c'est quand même quelque chose de fondamental. Mais il n'empêche que ce qui reste de Jimmy Carter, c'est plutôt les échecs et non pas les succès. Et parmi les échecs, il y a notamment sa politique iranienne. C'est-à-dire qu'au fond, Jimmy Carter n'a pas vu venir l'ayatollah Khomeini. Il a subi les effets de la présence des Iraniens qui ont pris en otage une cinquantaine de diplomates américains. C'est-à-dire qu'au fond, il est tout à fait le contraire de ce qu'a été Ronald Reagan. Et Ronald Reagan, au contraire, a été ce personnage qui a su redonner vigueur à la présidence des États-Unis dans l'ensemble du monde. Jimmy Carter, lui, y est parvenu après sa présidence. C'est-à-dire qu'au fond, il a été beaucoup plus grand après 1981 qu'il ne l'avait été entre 1977 et 1981. Alors, c'est ça le paradoxe.
André Caspi, je voudrais qu'on revienne et qu'on insiste sur l'influence de Jimmy Carter en Amérique latine. Il est vu souvent comme le premier président américain à avoir placé les droits de l'homme au cœur de cette politique. C'est ce qu'on retient principalement de la politique continentale de Jimmy Carter ?
Oui, c'est vrai, il a joué un rôle important en Amérique latine, mais est-ce que c'est vraiment cela qu'on retient de Jimmy Carter? Je ne suis pas certain. Je crois qu'en effet, Jimmy Carter, c'est une sorte d'image, d'un personnage, d'une présidence qui corresponde à un temps passé. On est très loin du temps de Jimmy Carter. Je vous rappelle malgré tout, et vous l'avez très bien souligné, que Jimmy Carter a quitté le pouvoir il y a plus de 40 ans. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un personnage qui appartient, disons, au siècle d'avant, mais qui n'est plus vraiment en prise avec le siècle d'aujourd'hui.
Donc on a souligné quand même des avancées, notamment cette rétrocession du canal de Panama. Y en a-t-il d'autres dans cette région ?
C'est-à-dire qu'au fond, on ne peut pas dire qu'il ait vraiment transformé l'Amérique latine. Les rapports entre les États-Unis et l'Amérique latine restent des rapports qui sont inégaux. Et on voit par exemple aujourd'hui Donald Trump qui est prêt éventuellement à remettre les États-Unis au pouvoir sur le canal de Panama. Bon, bref, tout ça, si vous voulez, montre bien que Jimmy Carter appartient au monde d'avant et non pas au monde d'aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'il faut souligner le rôle important qu'il a tenu après sa présidence, beaucoup plus que pendant les 4 années où il a été à la Maison-Blanche.
C'était une politique de pacification, en somme. Peut-on la résumer comme telle aujourd'hui, André Caspi ?
Certainement, oui. C'est-à-dire c'est une politique qui défend les droits de l'homme dans une région où il est extrêmement difficile de les défendre. Je parle de l'Amérique latine. Mmh. Ça veut dire qu'au fond, Jimmy Carter a fait ce qu'il a pu, mais sur un plan, disons, spirituel. C'est C'est un grand esprit, beaucoup plus qu'il ne fut un grand politique.
Un exemple avec Haïti, quand Jimmy Carter arrive au pouvoir, Duvalier fils, hein, Baby Doc, qui est lui également au pouvoir. L'administration Carter a continué à fournir une aide au pays malgré un bilan plutôt sordide en matière de droits de l'homme. On peut s'interroger aujourd'hui sur ce positionnement ?
C'est-à-dire que n'oubliez pas que lorsque Jimmy Carter arrive au pouvoir en 1977, les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine sont encore marquées par l'influence de Fidel Castro. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au fond, il y a tout un bouillonnement d'idées, toute une transformation de la vie politique qui s'est opérée dans les années 1960-1970. Jimmy Carter fait face à ce mouvement, mais il ne peut pas empêcher en somme qu'il y ait des tensions fortes entre les États-Unis et puis ces révolutionnaires ou ces prétendus révolutionnaires, d'autant plus que, n'oubliez pas qu'à cette époque-là, l'Union soviétique existe encore. Et l'Union soviétique tient une place qui n'est pas négligeable dans ce bouillonnement d'idées à l'encontre des États-Unis.
Vous faites bien d'en parler. Cuba est effectivement un autre exemple. Jimmy Carter a souvent privilégié le dialogue plutôt que la confrontation directe avec Fidel Castro. Il avait, par exemple, montré sa volonté de lever l'embargo américain, d'améliorer la situation des droits de l'homme, même de normaliser les relations entre les deux. André Caspi, ses tentatives, avec quel succès ou bien quel échec ?
C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup réussi. Ce qui fait que, finalement, quand on fait le bilan de la présidence de Jimmy Carter, on arrive à cette idée que, oui, c'est vrai, il a réussi un accord entre les Israéliens et les Égyptiens, un accord qui dure toujours. Ça, il faut pas lui enlever ce mérite. Mais d'un autre côté, quand on regarde sa politique à l'encontre de l'Iran, quand on regarde sa politique à l'encontre de l'Amérique latine, tout ce que l'on peut dire, c'est que il a peut-être essayé, mais il a aussi beaucoup échoué.
On parle également de cet héritage politique laissé par Jimmy Carter aux États-Unis, l'héritage à l'international et son héritage de façon globale. Comment se positionner face à cela aujourd'hui ?
C'est-à-dire que Jimmy Carter a quand même reçu le prix Nobel, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps à un président des États-Unis. Mais ça veut dire qu'il a beaucoup agi pour les droits de l'homme, mais c'est après 1981. C'est-à-dire que c'est ça le contraste, si vous voulez, dans la vie de Jimmy Carter. C'est que quand il était président, il n'a pas eu de très grands succès, mis à part, bien sûr, ce que je viens de rappeler, les accords de Camp David de 1978. Mais c'est surtout le président ancien, c'est-à-dire le président qui est sorti de la Maison-Blanche, qui, lui, a réussi à imposer sa figure morale, à imposer, en somme, une certaine idée de l'Amérique, que ce soit en Amérique latine ou dans d'autres régions du monde, ce qui fait que c'est, au fond, un personnage qui est un peu extraordinaire, puisque ce n'est pas en tant que président qu'il a réussi à entrer dans le monde des grands, c'est en tant qu'ancien président. Et c'est en cela que Jimmy Carter est un personnage qui sort de l'ordinaire et qui a marqué sans aucun doute son temps, mais le temps après 1981.
Et quelques réactions de chef de l'État. Le président cubain Miguel Díaz-Canel assure que les Cubains se souviendront avec gratitude de Jimmy Carter pour ses efforts en faveur de l'amélioration des relations entre les deux pays. Au Brésil, Lula rend hommage à un amoureux de la démocratie et à un défenseur de la paix. Merci André Caspi.
Au revoir.
Je rappelle que vous êtes historien des États-Unis et professeur émérite à la Sorbonne. Cet entretien à retrouver sur notre site internet RFI.fr. RFI, 14h24 ici à Paris.
RFI.
Vous êtes resté avec nous, Christophe Paget. La suite de votre revue de presse direction les côtes du Pérou, du Chili et de l'Équateur. frappé par d'énormes vagues.
Oui, des houles venues du nord avec des vagues atteignant 4 mètres de haut, raconte au Chili La Tercera. Le phénomène météorologique a d'abord touché le nord du Pérou, où des dégâts matériels ont été signalés. Il s'est rapidement propagé le long de la côte pacifique, atteignant le Chili et l'Équateur. En Équateur, où, détaille El Universo, 2 personnes ont été tuées. En fait, la nouvelle phase lunaire influencerait l'augmentation du niveau de la marée dans certaines zones côtières. C'est ce qu'a expliqué la direction de l'hydrographie et de la navigation de la marine péruvienne. C'est à lire dans El Comercio, selon qui cette houle anormale d'intensité faible à forte persistera sur le littoral jusqu'au samedi 4 janvier. Le Pérou, 91 ports ont été fermés, détaille Diario Correo. De son côté, Pérou 21 publie les images de la station balnéaire de Mancora, dévastée par les vagues, et raconte qu'à quelques heures de célébrer la nouvelle année, des dizaines d'entrepreneurs de la côte, hôtellerie, gastronomie, tourisme, sont désespérés. Ils ont perdu tous leurs investissements.
Merci Christophe Paget, je vous libère. Merci pour cette revue de presse. Direction la Colombie dans cette demi-heure où les réactions sont nombreuses dans le pays depuis la sortie sur la plateforme Netflix des 8 premiers chapitres de la série 100 ans de solitude. Il s'agit de l'adaptation du célèbre roman qui a valu à son auteur colombien, donc Gabriel García Márquez, le prix Nobel de littérature en 1982 et depuis resté comme un classique de la littérature universelle. Marie-Ève Deteuil a pris la température dans les rues de Bogota.
100 ans de solitude est un monument en Colombie. La série, produite par Netflix, était donc attendue avec un certain scepticisme. La première saison a séduit. Nora Robayo, cadre universitaire qui a lu 3 fois le roman, est enthousiaste.
Ça a été un vrai plaisir que de regarder cette série télévisée, qui était le seul format possible pour adapter cette œuvre à l'écran. Je me suis sentie connectée avec le paysage, la photographie, la végétation. J'ai été transportée dans ce lieu, Macondo, que nous avons tous dans notre tête.
Carolina Albordos, consultante, est un peu plus mesurée.
Je trouve que la série est très bien faite. Elle réussit à recréer l'atmosphère du livre. Mais une série ne va jamais égaler ce que l'imagination peut éveiller quand on lit 100 ans de solitude.
Jacobo del Castillo, cinéaste, rappelle qu'adapter ce roman fleuve à la télévision était un immense défi.
La série a été faite par une équipe de 600 ou 700 personnes. Elle a eu des moyens financiers très importants, 2 excellents réalisateurs, une très bonne équipe de production. Cela dit, quand tu la vois, tu as envie d'aller lire le livre, de sortir de la magie audiovisuelle pour retourner au texte.
Mais comme Nora et Carolina, Jacobo regardera la deuxième saison. Marie-Ève Deteuf, Bogota, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Une édition présentée aujourd'hui par Alex Léveillé. Bonjour Alex.
Bonjour.
Nous sommes en Martinique et en Guadeloupe.
Et oui, avec Rodrigue Petitot, est-ce qu'il va retrouver sa liberté? Incarcéré depuis le 5 décembre dernier à la prison de Ducos en Martinique, le leader du RPRAC, Rodrigue Petitot, et ses avocats ont présenté une seconde demande de remise en liberté, examinée ce jour au tribunal judiciaire de Fort-de-France. Et un ensemble d'organisations politiques et syndicales appellent à la mobilisation pour demander sa libération. Aude Goussard, la secrétaire du RPRAC.
On constate que la vieille garde a été au-dessus de nos déclarations qui pouvaient parfois heurter. Et nous en sommes sincèrement désolés. Maintenant, espérons que les préavis qui courent soient bien enregistrés par les travailleurs et que s'ils ont observé, comme nous-mêmes, ces 3 dernières semaines que les prix ont drôlement augmenté, qu'ils se mobilisent à nouveau, que l'on boycotte ou que l'on fasse des actions qui permettent de prouver que Rodrigue Petitot n'est pas la cause du problème mais est la conséquence. La vie est chère. Les travailleurs sont le social à la Martinique est en berne. C'est normal que les gens ont besoin et besoin de se retrouver en famille, chanter leur Noël, prendre une pause. Et ça, nous l'entendons. Donc, la baisse de fréquentation du mouvement n'est que l'expression de cette fête des enfants, qui est Noël, un moment de repli religieux aussi pour les chrétiens catholiques, et donc de se mettre en pause pour redémarrer prochainement.
Aude Goussard au micro de Mike Irasque de Martinique la première. Et on rappelle que Rodrigue Petitot était placé en détention provisoire pour s'être introduit dans la résidence de la préfecture de la Martinique. Et puis avant de se quitter, le nombre de patients atteints du virus de la grippe en nette augmentation aux Antilles. Depuis la semaine dernière, la Guadeloupe et la Martinique sont passés en phase épidémique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente fin de journée à tous.
Merci Alex Léveillé pour le journal des territoires français de l'océan indien, 14h29 ici à Paris. Merci d'avoir suivi cette édition d'RFI Midi. Demain, vous retrouvez Charlotte Sidrac. Excellente suite des programmes sur RFI. Dans une demi-heure, le prochain point sur l'actualité internationale. L'actualité africaine revient, elle, ce soir à partir de 19h30, temps universel.
RFI, la sélection du mois.
Criollo. Se acaso você chegasse no meu château e encontrasse aquela mulher que você gostou.
Théophile Chantre.
Papier de musique, assistante, résistante. Papier de musique.
Papier de musique. RFI Musique.